Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 7.
Ils disent que t'es une sorcière.
Maxime, le petit roux, dans sa chambre, couché dans son lit automobile, la tête sur les jambes de son père, assis au bord, apprécie cette main adulte à l'odeur connue, large, sèche et chaude, qui lui caresse le front et les cheveux. L'homme console son garçon avec des mots justes et pesés sur la méchanceté des gens quand ils sont en groupe, quand ils ne se sentent pas en danger, sur l'instinct dont il faut se méfier.
Personne n'est à l'abri de ce genre d'instinct, tu vois. C'est pour ça qu'il y a l'école, pour apprendre. Parce qu'on se dit que plus on sait de choses, mieux on réfléchit, mieux on se comporte, peut-être.
Le père a des doutes et les exprime. Il dit souvent:
Tu sais, dans le fond, je n'en sais pas beaucoup plus que toi, je fais des suppositions.
ce qu'il sait. L'homme assis sur le bord du petit lit, c'est qu'il était fait pour être père, et il ne s'en est rendu compte qu'une fois ce premier enfant né. Xavier rêve souvent, dans la solitude partagée d'une voiture de patrouille, ou en écrivant minutieusement le procès-verbal d'une plainte pour un incident mineur, vol à l'étalage ou conflit de voisinage, il rêve souvent de s'enfuir de ce métier qui l'ennuie pour se confiner dans l'espace domestique, s'occuper de ses enfants, en faire d'autres quand ceux-ci seront trop grands, ou en recueillir, en adopter. Il rêve d'être père de métier, mais n'en parle pas, parce qu'il sait bien comment les gens réagissent quand une idée leur est dévoilée qu'ils n'ont jamais eue eux-mêmes. Ils se moquent, dénigrent, crachent. À sa femme, oui, il dit la sensation d'accomplissement qui le submerge quand un de ses enfants prend sa main, quand il montre comment faire ci ou ça, quand il donne le bain, borde la couette sous un visage petit et déjà endormi. Séverine est devant son ordinateur. Elle aurait aimé travailler à sa thèse, mais son esprit n'est pas capable de s'accrocher aux notes, aux observations, aux concepts. Sa propre mère est venue plus tôt dans la soirée. Ça lui a fait un choc de la voir sur le pas de la porte, si tard, le visage grave, les yeux verts inquiets. J'ai les mêmes yeux qu'elle quand je m'inquiète, s'est-elle dit. Chaque fois qu'elle voit sa mère, elle ne peut s'empêcher de se noter quelque chose de ce genre. Je suis pareil sur ce point. Je suis différente sur cet autre. Le garçon avait dit à ses parents que l'école ne s'était pas très bien passée aujourd'hui, mais qu'il ne voulait pas en parler. Et tout le monde avait été d'accord pour en rester là. On attendrait le lendemain, que les choses se soient tassées. Et s'il restait mutique, on irait parler à l'instituteur. Mais la grand-mère était venue, et le garçon l'avait vue, et tout avait été chamboulé.
Est-ce que tu leur as raconté, mon bonhomme?
Séverine avait tourné les yeux vers son fils. Elle aurait voulu que son mari fût avec elle, la situation était trop inhabituelle, elle avait besoin de soutien. Annick était fébrile, Maxime rougissait et regardait furieusement ses pieds nus qui sortaient, incongrus, des jambes un peu trop longues de son pyjama. Mais Xavier était en train de coucher les deux petites, il ne fallait pas qu'elle lui crie de venir, il aurait été inquiet, les petites auraient été inquiètes, elles auraient sûrement pleuré, et finalement auraient demandé plus d'attention que dorénavant.
Est-ce que tu veux t'asseoir? Tu veux boire quelque chose? J'ai des infusions, tu veux une infusion?
Avait-elle demandé à sa mère, qui s'était contentée de répondre.
Non, c'est gentil, je pars tout de suite.
Le silence s'installait, lourd et menaçant, tandis que le garçon restait muet et le regard accroché à ses orteils blancs, tandis que la grand-mère lui sommait en silence de tout raconter, que la mère regardait cette femme aux cheveux blancs dont elle était issue et se réjouissait de n'avoir pas grandi avec elle, de n'avoir pas eu à supporter ce genre de confrontation après une bêtise, parce qu'elle faisait sacrément impression. Les escaliers avaient grincé, le mari descendait. Il avait le pas léger, il était un homme léger, mais les escaliers auraient grincé, même sous le trottinement d'une souris. Il faudrait y faire quelque chose, un jour, mais quoi? Maxime tourna la tête si rapidement qu'on aurait pu croire qu'il n'allait pas pouvoir l'arrêter dans son mouvement et se briser ainsi la nuque. Il vit son père et se précipita dans ses jambes, manquant de le faire tomber. Alors l'homme eut ce petit rire que son épouse aimait tant, ce rire de surprise, de gêne et de plaisir mêlés.
Bah alors, mon bonhomme, c'est ta grand-mère qui te fait peur comme ça? Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien?
Annick n'avait rien répondu, baissait légèrement les yeux. Peut-être qu'à ce moment-là, elle s'était sentie intruse. C'est vrai, ces gens, cette femme qu'elle avait mise au monde puis abandonnée, l'avait à nouveau invitée dans sa vie, mais cela lui donnait-il le droit de débarquer ainsi, les effrayer, effrayer leur enfant, si inquiète qu'elle puisse être? Séverine sut lire le chemin de pensée dans ce léger décalage du regard, la façon dont l'épaule gauche sembla reculer, comme pour entamer un demi-tour vers la porte. Alors elle lui dit, un peu trop fort, « Non, reste, maman, reste. Tu as l'air inquiète. Dis-nous. » L'institutrice frissonna de plaisir devant la sollicitude de sa fille. Elle avait dû être élevée par des gens particulièrement bienveillants. Comme ces gens étaient morts, elle ne pourrait jamais les remercier. Un accident d'avion. Qui meurt vraiment dans un accident d'avion? Elle dit alors, d'une voix qu'elle voulut douce et qu'elle sentit forcée, que c'était au garçon de raconter ce qui lui était arrivé, parce qu'elle-même ne saurait pas bien le faire, parce qu'elle avait peur de faire des raccourcis ou de dire des choses fausses. Maxime avait sorti sa petite tête des genoux de son père et s'était assis sur une marche dans un soupir, les épaules soudainement si lourdes. Et il avait raconté, très lentement, d'une voix posée qui sonnait étrangement tant il gazouillait d'habitude. Il avait raconté la cour, sa participation, puis la classe, sa blague, la réaction de l'instituteur. Il avait raconté comment l'institutrice, sa grand-mère, était partie comme une furie, comment il avait vu la mère d'Anita arriver et s'était retenu d'aller la voir pour lui dire qu'il était désolé. Il avait raconté la fin de la journée qu'il avait passée à se demander si son cœur n'allait pas s'arrêter, qu'il en avait parlé à Clémence, son amie dans la classe, qui avait dit
« Ma sœur n'aurait pas dû faire ça, Anita va se venger ».
Finalement, non, son cœur ne s'était pas arrêté, Anita ne s'était pas vengée. Mais Clémence avait l'air si effrayée, et la cloche avait sonné, et son estomac s'était un peu dénoué quand sa mère était venue le chercher, qu'il avait goûté, joué, fait ses devoirs, mangé à nouveau, mis son pyjama, brossé ses dents, attendu que les deux petites sœurs soient couchées pour que son père vienne lui lire une histoire. Ces choses qui construisaient son quotidien, et dont il avait décidé ce soir qu'il ne supporterait pas de ne plus les avoir. La mère d'Anita tente de compter dans sa tête, comme sa propre mère le lui avait appris, avant de réagir. Mais elle n'y arrive pas. Quelque chose s'est formé en elle, dans son estomac, de violent, d'acide, qui remonte le long de sa poitrine, lentement, de sa gorge, qui va bientôt sortir par sa bouche, et elle ne peut rien faire d'autre que baisser la tête, fermer les yeux et attendre que ça lui passe ou que ça sorte. Anita la regarde, sur le qui-vive, comme on regarde quelque chose se transformer, sans être certain que la transformation sera à notre goût. Ses sourcils sont froncés, ses joues sales se gonflent légèrement, sa bouche disparaît en un trait fin, tandis que ses petites mains aux ongles courts se triturent l'une l'autre, comme se disputant le droit d'agir en première. Joe entend, de loin, dans l'autre pièce, la voix de sa propre mère, il y a plus de 20 ans de ça, lui dire
« Nous ne sommes pas des sorcières, ma fille. Il ne faut pas les laisser dire ou croire ça. Il faut être digne et humble et se comporter bien, très bien. Ne pas leur laisser la chance de dire quelque chose de mal. »
Joe a passé sa vie à se plier à l'injonction maternelle, aux injonctions répétées puisque sa mère avait une fâcheuse tendance à ressasser. Dans l'école privée de la ville voisine dans laquelle elle avait été envoyée, une école pour enfants handicapés, sourds, aveugles, paralytiques. Là-bas, personne n'aurait eu l'idée de se moquer d'elle. Dans le collège, dans la vie active faite de petits boulots avant de décrocher celui-ci, stable depuis 10 ans, de caissière au cinéma, dans la rue, au marché, au supermarché, à l'école de sa fille. Elle n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre et a toujours répondu gentiment aux questions, même celles posées méchamment, a toujours fait profil bas, présenté une image lisse où rien ne peut accrocher, où aucune faille ne permet qu'on s'y engouffre. Tout le monde, dans cette petite ville dans laquelle elle est tout de même restée, puisqu'elle a trouvé un travail ici, puisqu'elle a récupéré la maison de sa mère, puisqu'elle y a toujours vécu, tout le monde est correct, aimable, mais personne n'est jamais amical. Les gens amicaux viennent d'ailleurs, sont de passage, vivent dans d'autres villes. Ses proches, la famille qu'elle s'est créée d'amis, peu nombreux mais extrêmement aimants, ils vivent ailleurs, parfois loin, on se voit peu. Ici, elle n'a que sa fille, son héritage, son humilité et sa carapace aussi lisse que le plastique de ses bras. Elle en a assez. Elle s'en rend compte au moment où la boule acide finit de lui remonter la gorge. Elle en a assez. Elle sait très bien ce qu'elle va dire à sa fille. Elle en est effrayée et sordidement joyeuse.
Tu sais quoi, Anita? Tu n'as qu'à leur dire qu'ils ont raison. Dis-leur que oui, je suis une sorcière, que oui, ma mère, ta grand-mère en était une, ma grand-mère à moi avant elle, et que ça se transmet de mère en fille.
Mais c'est vrai ?
Je ne sais plus, Anita. Ils le disent depuis tellement longtemps.
Tu peux faire des choses magiques ?
Je contrôle le plastique.
Ah oui ?
Oui, regarde.
Elle ouvrit et ferma sa main. Et sa fille rit. Samedi matin. Christian essaie de prendre sur lui. Mais c'est difficile. Fabien, son fils, est là, en train de mâchouiller ses céréales devant la télévision. Qui pourrait dire qu'il est adulte, ce gamin ? Il a bousillé sa voiture. Ce con dit que c'est à cause de la femme sans bras. Il était à deux doigts de convaincre son frère. Son frère est policier, il a réussi, mais il se fait toujours avoir par les histoires du gamin. Fabien pourrait raconter n'importe quoi à son aîné, celui-ci le croirait. C'est une sorte de don. Christian va encore devoir débourser de l'argent parce que son fils n'a pas un rond. Il travaille, mais pas depuis assez longtemps pour avoir de l'argent de côté.
Tu le feras rembourser en plusieurs fois. Ça va, on peut étaler, ça ira, on se serrera la ceinture.
Lui a dit Muguette, sa femme, avant de s'endormir hier soir, chacun de son côté du lit. Christian sait qu'elle a raison, mais elle l'énerve. Elle a eu un cancer de l'estomac, elle a un mal fou à s'en remettre, et ça l'énerve. Il sait bien que ça devrait pas, mais c'est plus fort que lui. Lui, il aime les combattants, les rageurs, les courageux. Il supporte pas la faiblesse. Muguette, elle est pas faible, elle a bien réussi à battre la maladie. Mais c'est la convalescence, la voir comme ça, douce, compréhensive, ça le met hors de lui. On dirait une bonne sœur en plein jeûne. Alors, il l'ignore, souvent. Et il fait tenter si bien que des fois, il lui arrive de l'oublier. Christian regarde son fils, qui ne semble pas le voir, absorbé par une connerie à la télévision. Il regarde sa maison, il regarde sa vie, et il regrette de n'avoir pas fait la guerre. Il a été militaire, mais jamais sur un terrain vraiment dangereux. Toujours dans des missions de sécurité publique à la con, à zoner mitraillette à la main dans des gares et des espaces publics. Complètement avilissant. Un jour, sur un coup de tête, il a tout plaqué. Il a trouvé un médecin sympa qui lui a foutu une dépression assez sévère dans son rapport pour qu'il puisse quitter l'armée avec sa retraite et a trouvé un boulot de chef de sécurité à l'hypermarché. Là, au moins, il ne fait pas de ronde et il a des hommes sous sa coupe. Et plutôt des compétents en plus, il n'a pas à se plaindre. Pourtant, quand il était militaire et qu'il pensait encore qu'un jour il irait sur un terrain de guerre, risquer sa vie dans des stratégies avec des ennemis, des gens à abattre, un côté auquel se tenir, quelque chose à défendre, à cette époque, il l'aimait tellement, Muguette, sa femme qui n'avait pas été malade, qui s'occupait de ses deux beaux garçons. Comment il aurait pu se douter alors qu'un des deux allait finir complètement con ? Tout ce que Fabien trouve à dire, en ce moment, c'est que la bonne femme sans bras fait des trucs louches. Il faut à chaque fois intervenir quand il parle à Christopher avant que celui-ci se décide à enquêter sur elle. Fabien passe son temps à tomber dans des gouffres et il essaie d'entraîner tout le monde avec lui. C'est malheureux. Pas que Christian porte cette femme sans bras dans son cœur. C'est vrai qu'elle est bizarre et que si ça tenait qu'à lui, elle serait forcée au moins de mettre des manches longues pour qu'on voit pas ses putains de bras en plastique. Mais faut pas exagérer non plus. Fabien a ses marottes. Avant ça, c'était les migrants, mais au moins sur le sujet, il y avait de quoi discuter. Et Christian avait le plaisir d'être souvent d'accord avec son gamin. Sauf qu'il a conscience, lui, que les migrants ont souvent vécu la guerre ou quelque chose d'approchant, alors que lui n'a jamais eu cette chance. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous et des autres.